Actu SF, les podcasts.
Bonjour à tous pour cette table ronde, peut-être la première table ronde en France portant, dans le milieu de la science-fiction en tout cas, sur Wikipédia. Donc Wikipédia, communauté des savoirs, et pour nous en parler, nous avons trois invités qui contribuent activement à cette grande communauté des savoirs et qui vont se présenter à vous. Et on va commencer par Amélie Tsagvalren.
Merci beaucoup Jeanne de m'avoir invitée. Donc résumer mon parcours serait extrêmement compliqué parce qu'en fait j'ai tenu en moyenne sur une activité professionnelle 3 jours. Et là, exceptionnellement, depuis un an, je suis assistante de recherche dans le domaine de l'autisme à l'hôpital Rivière des Prairies de Montréal, en télétravail. Hein. Je travaille depuis la France. Et sinon, l'essentiel de mon activité a consisté à écrire des articles de presse dans le domaine du cheval et donc à contribuer à Wikipédia. Mais ça, on en reparlera.
C'est bien, tu es sage. Olivier Gechter.
Oui, donc on me connaît un petit peu dans le milieu de la science-fiction pour quelques bouquins comme Le Baron Noir, et Évariste, et puis un livre de cuisine qui vient de sortir, très joli, pas cher. Et sinon, je suis ingénieur mécanicien depuis, ça va faire 25 ans maintenant, et j'ai fait partie d'une association qui était l'association de la conservation de l'ingénierie industrielle. Voilà, donc c'était de l'archéologie industrielle.
Jean-Louis Trudel.
Merci, bonjour. Je suis écrivain d'abord, de science-fiction beaucoup, une trentaine de livres, une centaine de nouvelles. Je suis aussi historien des sciences et des techniques et à l'occasion aussi historien de la science-fiction. Mon livre « Le petit guide de la science-fiction au Québec », un panorama historique du sujet, est disponible à la librairie et je signerai aujourd'hui.
Et donc je suis Jeanne Adbat, directrice artistique de ce festival, ici modératrice mais contributrice à Wikipédia à la petite semaine. Essentiellement, dans mon cas, et ce sera tout ce que je vous en dirai, je réécris les traductions des résumés de Au-delà du réel qui sont une catastrophe. Et chaque fois que je tombe là-dessus, je ne peux pas m'empêcher de réécrire le truc. Voilà. Alors, je vais vous lire ce qui est écrit sur la page d'accueil de Wikipédia à l'entrée Wikipédia. Wikipédia est un projet d'encyclopédie collective en ligne, universelle, multilingue, fonctionnant sur le principe du wiki, créé par Jimmy Wales et Larry Sanger le 15 janvier 2001. Il y a discussion sur la question de la création conjointe, mais on y reviendra. Ce projet vise à offrir... Normalement, vous voyez défiler sur les écrans. Oui ? Non ? Non ? Ça vient ? Ça va venir. Vous verrez passer la tête de Jimmy Wales et Larry Sanger incessamment sur les écrans. Donc, ce projet vise à offrir un contenu librement réutilisable, objectif et vérifiable. Alors, appuyons sur le verbe « vise », hein, ça ne signifie pas qu'il y parvient, c'est ce qu'il veut faire, que chacun peut modifier et améliorer. Wikipédia est défini par des principes fondateurs, son contenu est sous licence Creative Commons BY-SA, il peut être donc copié, réutilisé sous la même licence, sous réserve d'en respecter les conditions. C'est la prochaine table ronde, excusez-moi. Les rédacteurs des articles de Wikipédia sont essentiellement bénévoles. Ils coordonnent leurs efforts au sein d'une communauté collaborative sans dirigeant désigné. Les versions des différentes langues utilisent les mêmes logiciels de publication MediaWiki et ont la même apparence, mais elles comportent des variations dans leur contenu, leur structure et leur modalité d'édition et de gestion. L'encyclopédie ainsi que son environnement sont hébergés sur Internet grâce aux serveurs financés par la Wikimedia Foundation, dont vous verrez passer à un moment donné le logo. Organisation à but non lucratif américaine, dépositaire de la marque Wikipédia. En octobre 2017, Wikipédia est le 5e site le plus fréquenté au monde. Il constitue le plus grand et le plus populaire des ouvrages de référence générale d'Internet. En février 2014, il y avait mondialement presque 500 millions de visiteurs chaque mois. Et en mai 2014, toujours, 22 millions de comptes pour les éditeurs, dont plus de 73 000 sont considérés comme actifs. Historiquement, l'anglais a été la langue principale utilisée avant qu'une multitude de sites ne soient ouverts dans d'autres langues, notamment le Wikipédia en français le 23 mars 2001. Mais actuellement, Wikipédia compte à peu près 302 langues et le Wikipédia en anglais a toujours conservé une importance relative. Le nombre d'articles total s'élève à plus de 5 millions. En France, il y a 2 500 000 articles et environ une vingtaine de mille de contributeurs actifs. Chacun donc peut publier simultanément, immédiatement du contenu en ligne, à condition de respecter les règles essentielles établies par la Fondation Wikimedia et par la communauté. Alors, j'ai envie de rattacher immédiatement ce sujet à ce qui nous préoccupe tous, c'est-à-dire la science-fiction. Parce que l'Encyclopédie universelle, l'Encyclopédia Galactica ou la Bibliothèque de Babel, c'est quand même un des grands rêves des écrivains de science-fiction, d'Isaac Asimov à Frank Herbert, par exemple. Tous ont rêvé cette possibilité de tout savoir sur tout, de tout raconter à tout le monde. Alors, les écrivains de cette table, est-ce quel est votre rapport à ce fantasme de science-fictif ?
Moi, je vais peut-être commencer. J'ai le micro le plus proche de la bouche.
C'était stratégique.
Moi, bizarrement, c'est le côté, c'est l'histoire du Moyen Âge qui me raccroche à Wikipédia. Quand j'étais petit, mon père me parlait tout le temps de Pic de la Mirandole, qui, à l'époque, était réputé connaître tout le savoir de son époque. Donc ça, c'est au Quattrocento, si je ne me trompe pas. Et ça m'a tellement marqué que moi, je me suis dit, ah, j'aimerais bien faire ça, mais ce n'est pas possible de nos jours. On a arrêté de... Je crois que la dernière tentative de catalogage complet de la connaissance, c'est un livre que j'ai chez moi, il s'appelle « Un million de faits », qui est un annuaire comme ça, qui date de 1829, préfacé par Arago, c'est la classe. Je te prêterai si tu veux.
Avec plaisir.
Il faut des bonnes lunettes, hein, c'est écrit tout petit, sur papier Bible. Et je crois qu'après, il n'y en a pas vraiment eu, parce que c'est plus possible, l'explosion des sciences ayant fait ce qui fait, ayant eu lieu au 19e siècle et ensuite. Donc quand je suis tombé sur Wikipédia, moi, on va dire sur le tard, en 2003, j'ai eu l'impression de retrouver ce bouquin et Pic de la Mirandole lui-même avec tout, on pouvait tout mettre dedans. Et c'est qu'après que j'ai commencé à écrire de la SF, en fait.
En fait, Wikipédia, pour toi, c'est l'homme de la Renaissance. C'est
celui qui sait tout.
Voilà.
Et au moins qui a une idée sur tout.
Comme historien des sciences et des techniques, j'ai tout de suite plutôt tendance à revenir justement à l'histoire des encyclopédies, qui est assez vieille en fait. Il y a déjà eu des tentatives encyclopédiques, celle de Pline l'Ancien dès l'Antiquité. Au Moyen Âge, les moines composaient parfois des encyclopédies. Mais évidemment, ce n'est pas un hasard si la science-fiction et les encyclopédies se rencontrent essentiellement au début des temps modernes, au XVIIe ou XVIIIe siècle, parce que c'était une des ambitions de cette période que de commencer à cataloguer, inventorier tout, y compris des choses qui justement avaient été considérées comme moins nobles auparavant, comme les métiers, les pratiques artisanales, les sciences. Ça donne éventuellement naissance à l'encyclopédie Diderot et compagnie en France. Mais en fait, ce n'est que la pointe de l'iceberg qui surnage à l'époque d'une série d'encyclopédies, l'encyclopédie méthodique, des dictionnaires en anglais, en français, en d'autres langues. Et quelque part, je pense que la science-fiction est un peu l'héritière de ce mouvement du 17e, 18e siècle, cette aspiration effectivement à une sorte de connaissance totale, et qui a reflété aussi au milieu du 20e siècle des tentatives d'essayer d'organiser avec de nouvelles techniques ou avec de nouvelles techniques justement cette explosion de la connaissance depuis le 18e siècle. Alors il y a eu en Belgique le Mundaneum, je ne me souviens plus quel visionnaire, mais qui travaillait beaucoup avec des systèmes de catalogues de cartes qu'on pouvait référencés mutuellement. Il y a eu la vision de Vannevar Bush en 1945, le Memex qui est à base de microfilms et d'appareillage allait pouvoir indexer les connaissances avec, là on était à la pointe de, à la pointe de la technologie de l'époque. Et quelque part, Internet, quand c'est arrivé, a parfois justement été comparé à ce rêve du Memex de Bush, mais en même temps, le Wikipédia a matérialisé cela de façon beaucoup plus précise, alors qu'Internet, lorsque la toile est arrivée avec ses liens mutuels, le monde donné, le Wikipédia, elle, s'est focalisée sur justement la connaissance en principe fiable et a résolu le problème d'avoir de la taille de l'équipe nécessaire pour faire cela en se tournant vers tout le monde. C'est quelque chose qui, justement, en science-fiction, moi, je ne l'ai pas vu très souvent. Asimov avait imaginé une planète d'encyclopédistes, mais bon, c'était quand même une petite colonie. Et dans d'autres domaines, dans d'autres œuvres, on ne voit pas nécessairement cette délégation générale. Je me souviens, je pense aussi, d'un autre projet d'encyclopédie totale dans les romans de Gordon Dixon. Mais là aussi, c'est quand même une relativement petite équipe. Il reste un peu l'idée qu'il faut une autorité supérieure, centrale, hiérarchique, organisatrice. Et la décision de lancer Wikipédia correspond à la fois aux utopies libertaires qui remontent aux années 70 en matière et qui ont beaucoup influencé Internet. Mais c'était quand même une démarche radicale.
Amélie Tsagvalren, en fait, Wikimedia, sous sa forme actuelle, ce n'est pas la base de Wikipédia. Est-ce que vous pouvez nous parler de Nupédia ?
Ça va paraître peut-être un peu curieux, mais à l'origine de Wikipédia, il y a une petite phrase qui rappelle énormément une profession de foi et que je vais citer de façon très imparfaite. Imaginez un monde où chacun aurait accès à la totalité du savoir humain. Oh non, pardon, aurait librement accès à la totalité du savoir humain. Alors, c'est absolument génial. Et le principe, c'est que c'est impossible. On n'y parviendra jamais, mais ça n'empêche pas d'essayer. Et énormément de mes amis contributeurs sont touchés par cette phrase et tentent finalement de la rendre réelle. Après, je ne sais pas si c'est le sens de ta question.
Pas totalement. En fait, d'après mes recherches sur le sujet, Wikipédia, c'est quelque part, c'est un ricochet d'une intention qui était différente. Les deux fondateurs avaient comme projet de faire une encyclopédie qui serait alimentée par des gens entre guillemets sérieux et entre guillemets légitimes, donc exclusivement des scientifiques, des docteurs en littérature, dans toutes les sciences diverses et variées. Et puis pendant qu'ils préparaient ce projet qui s'appelait Nupédia, l'idée est venue, je ne sais pas comment par contre, et c'est là que j'aurais peut-être pu trouver l'information chez toi. Du coup, l'idée est venue que pour rire en attendant que ça s'étoffe, le gros machin Nupédia sérieux, on allait ouvrir le site à tout le monde. On allait demander à la soupe mentale de l'humanité, à la noosphère de l'humanité, de prendre en charge la rédaction des articles, tout en respectant trois critères très, très importants que tu vas nous citer, peut-être.
Oula. En fait, je suis abonnée aux questions pièges. Non, mais je souhaitais revenir un peu sur la création de Wikipédia. Vous avez vu passer dans le diaporama les noms des deux fondateurs, à savoir Larry Sanger et Jimmy Wales. Et je ne sais pas si vous avez fait attention en comparant les photos, ils n'ont pas du tout le même profil. Et l'histoire de la contribution à Wikipédia répète quelque peu, finalement, cette genèse. On a donc une alliance entre une personne qui se présente très bien et qui a les sous, donc en l'occurrence Jimmy Wales, et une personne qui physiquement présente beaucoup moins bien, mais qui a des compétences techniques exceptionnelles. Il s'agit de Larry Sanger. Et donc c'est Larry Sanger qui souhaitait que le projet Nupédia soit effectivement orienté, au niveau de la contribution, ouvert uniquement à des personnes titulaire de diplôme justifiant de connaissances. Voilà.
Là, on le voit bien. Hein.
Oui. Donc Jimmy Wales, à l'origine, était trader et a souhaité, grâce à l'argent qu'il avait récupéré en tant que trader, lancer Wikipédia, donc lancer un projet qui soit plus, j'arrive pas à trouver le mot qui coûte.
Shiny, plus porteur de...
Oui, c'est pas le mot charitable que je cherchais, mais...
Plus éthique ?
Non, c'est pas celui-là non plus, désolée, ça reviendra. Mais là où c'est assez triste, c'est qu'on a une répétition d'un schéma où la personne qui a les compétences techniques va être plus ou moins exploitée par la personne qui a l'argent. Et ça va se retrouver dans toute l'histoire de Wikipédia. Avec
ça va se retrouver dans toute l'histoire de l'humanité, tu sais.
Hélas.
Oui. Mais c'est vrai que sur Wikipédia, c'est...
Voilà, la personne à qui va ma sympathie, je pense que c'est assez transparent. Pardon, je t'ai coupé.
Non, je t'en prie. Alors, donc, les trois règles dont je parlais, c'est quand même la neutralité, l'éligibilité, à la base, avant la neutralité, il faut que ça soit éligible, il faut que ça soit neutre, et il faut que ça soit, sourcé.
Tout à fait.
Voilà. Ça, ce sont les trois principes fondateurs qui ont ouvert Wikipédia. Alors, là, tous les trois, vous contribuez donc à Wikipédia, chacun à votre manière. Et j'ai envie, d'ailleurs, je vais le faire, de vous demander comment vous contribuez à Wikipédia et pourquoi vous contribuez à Wikipédia.
Alors, moi, je suis à la fois donc contributeur, sujet, usager. Et même, on pourrait dire, méta-usager, parce qu'en tant que professeur à l'université, il m'arrive de discuter de Wikipédia avec les étudiants comme source, oui ou non. Mais on y reviendra, je pense. En tant que contributeur, je pense que comme un certain nombre d'auteurs, j'ai commencé peut-être par jeter un coup d'œil à... voir si j'étais présent sur Wikipédia et afin de créer au besoin la page en question. Après tout, je connaissais le sujet et j'avais des sources. Mais après, comme j'ai continué à contribuer à l'occasion, à la fois comme historien et aussi, on pourrait dire, comme membre d'une communauté. C'est-à-dire qu'il y a sans doute deux ou trois sujets auxquels je contribue particulièrement. Il y a celui des écrivains franco-ontariens. Donc, l'Ontario est une province du Canada, malgré ce que... Et c'est très peu connu, mais il existe des francophones en Ontario, et il y en a un certain nombre d'écrivains. Et à un moment donné, lorsque certains de mes collègues sont morts et que je me suis aperçu parfois à cette occasion-là, parce que je voulais en parler sur mon blog, qu'il n'y avait pas de page Wikipédia sur ces collègues, ben, j'ai parfois justement créé des pages sur ces auteurs franco-ontariens. Un autre domaine auquel je contribue, c'est celui de l'histoire. En tant qu'historien de formation et de profession à temps partiel au moins, dans certains domaines, je contribue, je corrige, un peu tout ça. Parfois, Wikipédia m'a sollicité pour créer des pages, mais ça n'a pas été renouvelé. J'ai pas eu de nouvelles requêtes depuis un certain temps, me semble. Et en tant que professeur à l'université, j'ai accès à des bases de données, des revues qui me permettent effectivement, quand je crée une page sur un sujet, disons, historique, de donner des sources, alors que malheureusement, souvent, les articles dans les revues savantes sont protégés, sont réservés. Moi, comme professeur à l'université, j'ai accès à ces pages, donc ça me permet de documenter, d'ajouter des sources à certaines pages Wikipédia plus facilement que pour d'autres. Je pense que ça résume assez mes contributions.
Olivier Gachter.
Alors, comme Jean-Louis, en fait, j'ai déversé mes connaissances professionnelles en premier dans Wikipédia en voyant que quelque chose manquait. Donc, moi, c'est plus l'ingénierie, hein, mon truc. C'est peut-être moins sympa, mais... Donc, la plupart des pages sur la lyophilisation, je suis au moins à l'origine des premiers jets. Pardon. Il y avait des choses sur l'aéronautique qui m'ont un peu hérissé le poil, je les ai repris. Et puis après, c'est le côté hobby qui est revenu par-dessus. Comme j'étais assez fan d'histoire, j'avais... avant que... Wikipédia existe, donc il y a très longtemps, hein, je crois que j'ai commencé en 93 à faire des pages web sur l'histoire des sciences et des techniques. Donc j'avais un site qui était pas mal fréquenté sur Clément Ader, Galilée, Edison, etc. Comme bon, ça commençait à me casser un peu les pieds de maintenir tout ça. J'ai en fait déversé tout le contenu dans Wikipédia en laissant les gens ensuite faire ce qu'ils voulaient avec les articles obtenus. Et puis j'ai clos le site. Donc de loin en loin, à la fin, en contribution majeure et création, j'atteins quand même un petit millier de pages, je pense. C'est là que je me suis dit qu'il fallait peut-être que je fasse autre chose de ma vie.
Amélie ?
Alors, c'est très différent parce que contrairement donc aux autres invités, je suis sans diplôme fixe, c'est-à-dire que je n'ai rien officiellement au-dessus du bac et une partie de ma scolarité s'est faite dans le médico-social pour cause de diagnostic d'autisme. Donc quand j'ai débarqué sur Wikipédia, je ne me sentais absolument pas légitime. J'ai commencé à contribuer sur le cheval qui est mon centre d'intérêt depuis l'âge de 5 ans et ça a été très très bien reçu. Alors pour la petite anecdote, j'avais un projet d'ouvrage pour le cheval qui a été refusé pour cause d'absence de diplôme et donc d'absence de légitimité. Et bon, quand vous dites à un éditeur que vous avez fait une partie de votre scolarité en psychiatrie, il ne vous prend pas tellement au sérieux, quoi. Hélas. Donc ça constitue en fait mon activité principale de contribuer sur le cheval depuis maintenant une dizaine d'années. Les contributions sur la science-fiction se sont faites exclusivement en tant que fan. C'est-à-dire que, par exemple, j'ai documenté la page de Pierre Bordage, et j'ai créé deux pages pour deux de ses ouvrages. Alors, ça va être très imparfait de mémoire, ça doit être... ça ne me revient pas, bon, c'est pas grave. Et cette page a été labellisée, donc ça constitue en fait une grande partie de mon activité, de labelliser des articles. Donc il y a deux niveaux de label, bon article et article de qualité. Donc l'article de Pierre Bordage est au niveau bon article, donc avec des photos sympas qu'on avait prises au Salon du Livre, etc.
On peut développer sur la notion de bon article, article labellisé ?
Oui. Quand vous lisez des articles de Wikipédia, immédiatement... on avait un exemple à l'instant. Vous vous rendez compte que le niveau de qualité est très variable. Vous avez des articles qui comportent des fautes d'orthographe, qui sont mal rédigés, qui ont des manques en illustration, des manques en contenu. Et pour les articles considérés comme aboutis, on met en place une procédure dite de labellisation qui comporte deux niveaux, bon article et article de qualité, qui viennent récompenser en fait le travail fourni sur l'article par un ou plusieurs contributeurs. Alors, théoriquement, c'est un travail collectif de rédaction, sauf que quand on travaille collectivement sur un article, on se rend compte assez vite que ça ne fonctionne pas, que les ajouts se juxtaposent, n'ont pas le même style rédactionnel, parfois se répètent ou ne s'accordent pas pour différentes raisons. Et les articles écrits par une personne unique fonctionnent beaucoup mieux en labellisation. Bon, c'est comme ça, c'est un fait. Donc... une fois qu'un article est labellisé, il va passer en page d'accueil. Donc les articles que vous lisez sur la page d'accueil de Wikipédia sont forcément passés par cette procédure, à une époque plus ou moins récente, en général très récemment. S'il y a énormément d'articles sur les chevaux en page d'accueil, c'est de ma faute. Désolée.
Alors, je suis désolée, je n'ai pas mis la page d'accueil de Wiki en capture d'écran. Là, j'ai fait semblant de suivre une recherche au fil des pages sur mon ensemble de diapositives. Mais c'est vrai que si vous allez sur la page d'accueil de Wiki, il y a une page d'actualité et tous les articles qui apparaissent dessus donc, sont, comme Amélie vient de le dire, labellisés, donc garantis au moins a priori fiables. Tu voulais dire quelque chose,
Olivier ? J'ai eu le cas... mon article, en remaniant un peu, avait été article de qualité sur l'article sur Galilée. Et les contributions multiples qu'il y a eu ensuite ont fait qu'il a perdu le label. C'est-à-dire qu'à un moment, l'article labellisé, qui est quand même un certain niveau de travail, à plusieurs, on l'avait bien amélioré, est devenu incompréhensible après 5 ou 6 ans. Donc, par contre, le principe de label, juste petit aparté, c'est que le moteur MediaWiki, il est très utilisé dans l'industrie. En knowledge management, pour faire des encyclopédies à droite à gauche. Et dans l'industrie, évidemment, quand on a labellisé un article, il devient verrouillé par un comité, on ne le touche plus. Et ça, je trouve que, quelque part, de mon point de vue, et on pourrait dire qu'on n'est pas d'accord du tout avec moi, mais de mon point de vue, ça manque un peu sur Wikipédia, qui perd du coup de temps en temps des articles qui ont été labellisés qui ne le sont plus. Et on est obligé de revenir en arrière.
Là, c'est quelque chose sur lequel on reviendra plus tard, sur les améliorations potentielles à apporter à Wikipédia. Et du coup, vous avez décommencé tous les trois, comment vraiment? Est-ce que, comme beaucoup de contributeurs que j'ai entendus, vous êtes tombés sur une faute d'orthographe que vous vous êtes mis en tête de corriger? Et puis, de fil en aiguille?
Non.
Non,
pardon. Non, je suis tombée sur un article manquant sur les races de chevaux qui est un centre d'intérêt depuis 5 ou 6 ans. J'ai cherché le Knabstrub et j'ai pas trouvé. Je me suis dit, c'est une honte, créons l'article. Voilà. Alors, c'est une création très imparfaite. Hein. Première, on peut la retrouver d'ailleurs, article Knabstrub. Vous revenez en arrière dans l'historique et vous trouvez la première version 2008 sous IP. Voilà.
Ouais, ben moi, comme je disais, c'était plus parce que c'est, j'avais un besoin professionnel. Moi, le coup de la faute, ça m'a, c'est quand le virus m'a pris, en fait. Et que, ah, mais something is wrong on the internet. Ouais, on ne peut pas s'empêcher, il faut que je corrige cet article, il y a une faute. Oui, et à la fin, on n'arrête plus.
Oui, à la rigueur, on souhaiterait que toutes les pages d'Internet puissent être corrigées comme ça. Mais si j'ai été un peu flou tout à l'heure, c'est parce qu'en fait, mes souvenirs sont un peu flous. Et bien sûr, sur Wikipédia, il y a évidemment deux formes de contribution qu'on n'a pas mentionnées. C'est-à-dire qu'on peut, s'inscrire et devenir donc un contributeur labellisé, si on veut, sous une sorte de un pseudo, plus ou moins transparent ou pas. Mais on peut aussi effectivement contribuer comme membre du public, et alors c'est l'adresse IP qui est retenue par le système. Et donc moi, je me souviens même plus si je pense que j'ai dû commencer comme simple membre du public. Peut-être que j'ai commencé par corriger des fautes d'orthographe parce que c'est mon tropisme. Mais à un moment donné, peut-être justement par rapport à ma propre page, j'ai décidé de devenir membre. Et donc, il y a un certain nombre de contributions recensées associées à ce code d'usager. Mais comme je voyage beaucoup, il m'arrive aussi de contribuer à Wikipédia sans me donner la peine de m'inscrire. Et donc, il y a aussi plusieurs autres contributions à des pages ponctuelles rencontrées et puis, qui, effectivement, avaient peut-être des fautes d'orthographe à corriger.
Il y a peut-être encore une autre façon de contribuer qu'on oublie un peu et que je privilégie parce que ça me prend moins de temps. C'est à partir d'un certain niveau de contribution, on se met à avoir le droit de statuer sur la survie ou non de certaines pages nouvellement créées. Donc, on ne fait pas que créer des pages dans Wikipédia, on en supprime aussi. Et donc, du coup, moi, mon dada maintenant, c'est de vérifier surtout sur toutes les nouvelles promues au bio, lesquelles on pourrait sauver ou pas. Donc ça, c'est ma contribution majeure depuis 2 ans. Quoi.
Oui, ça s'appelle les pages à supprimer. Il est fortement déconseillé d'y aller sans une solide préparation, une armure et un sabre.
Il y a d'ailleurs eu une polémique il n'y a pas très longtemps sur le mot matrimoine.
Oui, l'article a été proposé en suppression. Alors, j'ignore quelle a été la conclusion à cette proposition.
Il est toujours là.
Oui, les gars. Mais vas-y.
Donc le conserver l'a emporté. On a énormément de polémiques sur tous les articles sociétaux au sens général, donc aussi bien les articles d'actualité, par exemple quand il y a un attentat, l'article Wikipédia est créé très souvent dans les 10 minutes qui suivent l'information à la télévision. Et ces articles sont très régulièrement proposés en suppression parce que nous n'avons pas assez de recul, nous ne pouvons pas prévoir la notoriété de l'événement, etc. Et à chaque fois, ce sont des foires d'empoigne dans les pages à supprimer avec application de toutes les techniques de Schopenhauer sur l'argumentation et énormément, énormément de travail pour les administrateurs qui font le décompte, qui constatent qui a une argumentation réellement solide et qui finalement fait usage de compétences rhétoriques. Et voilà, j'ai fui les pages à supprimer voilà un certain nombre d'années
donc
pour ma survie.
Tu n'as pas vu passer cette polémique-là
Oui, je crois que j'ai voté pour la conservation, je me rappelle. Ouf.
Et j'ai fait une contribution, mais je ne connaissais pas non plus l'issue du vote ou du processus, mais j'avais contribué à la discussion.
Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que tous les contributeurs labellisés, c'est-à-dire qui ont plus de 50 contributions confirmées, voilà, peuvent voter pour ou contre la suppression. Et on a une page de pour et une page de contre. Les admins repassent derrière, effectivement vérifient la validité des arguments, mais pas seulement. Enfin, il regarde si les arguments sont différents les uns par rapport aux autres aussi. Mais ce n'est pas tellement qualitatif que quantitatif, la décision à la fin. Ce qui fait qu'apparemment, polémique sur le mot matrimoine, qui était partie du fait que certains contributeurs, dont nous pouvons soupçonner qu'il s'agit de mâles blancs, massivement, pensaient que la notion de matrimoine n'était pas définie clairement par rapport aux critères de Wikipédia et qu'il n'y avait pas non plus d'attestation du mot. Donc, ceux qui étaient pour la contribution, la conservation de la page, sont arrivés avec les démonstrations de l'attestation du mot très ancien. Si je me rappelle bien, on retrouve le mot dans un poème de Louise Labbé. C'est dire si c'est clairement attesté en français comme terme. Après, ça s'est battu sur la définition même. Et au final, apparemment, la page a été conservée. Moi, je suis juste allée voter, comme Olivier. Et après, j'ai laissé tomber parce qu'effectivement, les discussions entre contributeurs peuvent être redoutables en termes de violence psychologique.
Ah oui, tout dernièrement, il y a un auteur dont la page est en ballotage pour la peut-être cinquième fois consécutive, et c'est la foire d'Empoigne avec Nom d'oiseau. Hein. Moi, c'est pareil, j'ai fait mon vote, je suis parti parce que ça part vraiment en sucette.
Tu as déjà participé à ce genre de foire d'Empoigne ou tu as décidé de juste voter
C'est très rare, il faut que je tombe sur quelque chose. Sans doute deux à trois fois, comme je dis, j'ai donné mon avis sur le matrimoine, d'ailleurs à ton instigation, soyons clairs. Mais puis effectivement, il y avait sans doute eu deux ou trois autres cas précédemment où j'étais intervenu, mais contrairement à Olivier, je ne vais pas chercher.
Là, il faut être clair, ça avait été un appel lancé sur les réseaux pour que les contributeurs qui voulaient conserver la page aillent défendre la page, et on l'a fait. Que financent exactement les dons que demande Wikipédia à ses usagers et contributeurs chaque année ?
Alors, pas les contributeurs, essentiellement les serveurs. Alors, c'est la plus grande partie des dons servent à financer les serveurs américains, quelque part dans la Silicon Valley, je n'ai plus l'adresse exacte. Qui coûte un pognon de dingue, comme dirait l'autre, enfin, pardonnez-moi. Et sinon, le reste des dons est ensuite réparti aux associations nationales liées à la Wikimedia Foundation. Donc la Wikimedia Foundation en Californie chapeaute un peu tout ça, et ensuite répartit les dons entre les associations nationales en fonction des résultats de ces associations en termes de projets aboutis les années précédentes et de la cohérence du projet présenté pour l'année à venir. Donc ça peut être très aléatoire. De mémoire, par exemple, Wikimedia Suisse s'en sort mieux que Wikimedia France parce qu'ils sont meilleurs en gestion de manière générale. Bon, pardon pour mes amis français. Cet argent va être investi principalement pour monter des événements de promotion de Wikipédia pour trouver des contributeurs, énormément en c'est pas le mot lobbying que je cherchais, mais c'est celui-là qui vient pour la liberté de panorama, donc le droit en France notamment de photographier tout bâtiment de l'espace public et de le mettre dans Wikimedia Commons, parce que c'est un droit qui est acquis dans d'autres pays européens et qui n'est pas effectif en France. Donc ça, c'est une grosse part des investissements de Wikimedia France. Alors, il y en a beaucoup d'autres, mais je ne connais pas l'ensemble des projets.
Et comment peut-on mettre une image de quelqu'un sur Wikipédia ? C'est quoi la règle ?
Je peux juste, avant que tu me donnes la règle, parce que ça va me servir, je vais te donner mon expérience. Il y a un astrophysicien qui a un certain niveau qui m'a. La page manquait. Alors évidemment, tout de suite, j'en crée une, je le contacte, il m'envoie sa photo. On n'a jamais réussi à avoir les documents nécessaires pour que la photo soit validée qu'on la pose. J'ai laissé tomber. Donc maintenant, si tu me dis comment on fait...
C'est pas sur Wikipédia qu'on met la photo. En fait, c'est dans Wikimedia Commons et la procédure va être exclusive. Enfin, ça a peut-être changé, mais c'est exclusivement en anglais. Donc déjà, il faut avoir une certaine compréhension de l'anglais pour réussir à mettre ces photos de manière correcte. Alors, ça a peut-être évolué, ils ont peut-être ajouté des outils, je ne suis pas forcément à jour. Ensuite, il faut que la photo soit libre de droit. Et là, on a un problème récurrent, notamment avec mes amis auteurs, c'est que j'en ai beaucoup qui m'envoient leurs photos en disant « Non, mais c'est bon, c'est ma mère qui l'a prise, ou c'est mon mari, ou c'est je ne sais qui d'autre. » Mais ça ne fonctionne pas, parce que je ne peux pas mettre en ligne une photo dont je n'ai pas les droits. Donc, il faut que la personne qui détient les droits de la photo la mette en ligne, ou bien il faut envoyer un mail à un système, que je ne dise pas de bêtises, bon, le nom ne me revient pas, mais faut envoyer un mail en expliquant qui a les droits, que la personne a autorisé l'utilisation de la photo.
Pardon ? TRS.
Oui, c'est cela, c'est au TRS, merci.
Du coup, j'ai envie de demander qui contribue à Wikipédia, là, dans la salle. Levez la main.
Plus haut.
Allez, plus haut, que je ne vois pas. Ah, mais on est massivement au-dessus de la moyenne nationale. Hein. Merci.
J'ajouterais à ce sujet qu'il y a effectivement, derrière ces pages Wikipédia, vraiment des équipes... effectivement auto-organisées, mais nombreuses et diversifiées, parce que une des sources de photos sur Wikipédia, c'est qu'il y a aussi des photographes qui vont prendre des photos et délibérément pour Wikipédia. Et il y a une de mes photos d'auteur qui a été prise par un contributeur de Wikipédia qui est venu à une de mes conférences à Québec, qui m'a demandé après la fin de la conférence, il était à peu près la seule personne dans l'auditoire, mais de me prendre en photo. Et cette photo, bon, pas nécessairement très flatteuse, mais donc se retrouve, je ne sais plus, peut-être encore sur ma page Wikipédia. Et donc, il y a des personnes qui, justement, vont faire le tour des monuments, des personnes, pour contribuer des photos spécifiquement pour Wikipédia.
Est-ce que vous avez des relations avec d'autres contributeurs de Wikipédia en tant que contributeur de Wikipédia ? Toi, Amélie ?
Non plus.
Oui. Alors, j'ai participé à toutes les Wikiconventions francophones. Donc, la dernière était à Grenoble. Et c'est la rencontre annuelle des contributeurs francophones. Donc, on a effectivement à la fois des contributeurs français, suisses, belges et venus d'Afrique. Bon, c'est d'ailleurs assez compliqué parce qu'ils ont des problèmes de visa tous les ans. Donc, ce sont des rencontres vraiment entre Wikipédiens. Ce ne sont pas vraiment des événements publics. Les gens de l'extérieur peuvent venir s'ils sont intéressés, mais ce n'est pas du tout l'objectif de départ. Et c'est très intéressant de voir comment évoluent les relations entre les contributeurs. Quand j'ai commencé, je n'avais pas du tout de relations sociales avec qui que ce soit, bon, pour des raisons évidentes. Et il m'a fallu énormément de temps avant de faire confiance à d'autres personnes et d'accepter de venir aux événements communautaires. Donc là, ça fait 3 ans que j'y arrive. J'ai beaucoup appris depuis. Et parfois, on peut s'être engueulé, mais vraiment de façon extrêmement vive, jusqu'à une menace de procès, hein, pour le cas qui me vient, avec un contributeur. Et puis, on le rencontre et puis bah, on devient amis. Donc c'est encore un grand mystère, mais j'ai 2 exemples comme cela.
Alors, ça n'est pas un mystère dans les relations humaines, Amélia. Alors, en fait, ça va toujours mieux quand on parle, si tu veux. J'ai des souvenirs d'enfilades de mails qui étaient au bord, tu vois, de l'assassinat à la sortie. Et il suffisait qu'il y en ait un qui prenne son téléphone et qui commence à discuter, et ça allait mieux. Mais c'est un truc verbal, tu vois, oral, ça. Voilà, du coup. Alors, j'ai envie de continuer sur... la question de la fiabilité. Il y a une histoire absolument délicieuse, c'est l'histoire du philosophe Botule. Est-ce que quelqu'un la connaît, celle-là ? C'est un moment où notre grand philosophe national, Bernard-Henri Lévy, s'est montré sous son meilleur jour. Non ? Personne ?
Quelqu'un, là.
Quelqu'un, là ? Ok, alors donc, je vais la raconter pour les autres. Donc, c'était au moment où, au premier balbutiement de Wikipédia, au tout début, ça devait être dans les années 2004-2005, on me corrige hein, si je me gourre, mais un joyeux plaisantin, comme il y en avait beaucoup à l'époque, de moins en moins maintenant. Hein. Déjà, on a commencé par ban toutes les IP des collèges et lycées. Hein. Alors, de temps en temps... C'est pas toujours vrai. De temps en temps, l'IP récupère son droit à modifier et à. Mais ça dure jamais très longtemps. En général, c'est 15 jours. En tout cas, dans mon collège, c'était comme ça. Ça tient 15 jours et après, il y a toujours quelqu'un qui va faire une connerie. et il y a un admin qui s'énerve et je lame. On ne peut plus, toujours pas corriger les fautes d'orthographe. C'est affreux. Bon. Donc, Botoul est présenté par un joyeux plaisantin comme un grand philosophe français méconnu, dont l'œuvre philosophique aurait dû transformer la vision française de la philosophie. Et il y en a toute une page avec de magnifiques références de première, de deuxième et quatrième catégorie, des photos, tout ça. Et ça passe. Elle est tellement bien faite, elle a tellement été créée avec soin, cette page, que personne ne se doute de rien. Et puis c'est à une époque où il y avait beaucoup moins de contributeurs, beaucoup moins d'admins en France, pour vérifier page après page que ça ne déconne pas. Et du coup, un jour, en interview, Bernard-Henri Lévy a cité la page de Botoul comme référence et comme argument à sa propre vision du monde. Ça a été un éclat de rire général dans la communauté philosophique française. Botoul, je pense que la page existe toujours d'ailleurs, mais qu'elle est, elle est créée en tant, enfin, elle est conservée en tant que article canular célèbre. Voilà. Il doit même y avoir le détail sur les fameuses recherches en philosophie de Bernard-Henri Lévy. Donc on est très content de ça. Ça fait sérieux. Cela étant, ne nous trompons pas, Wikipédia étant le premier endroit où typiquement les gens vont se renseigner sur un sujet, si vous voyez une connerie dans un article de journal, allez immédiatement à la page Wikipédia correspondante et il y a des chances que vous retrouviez la connerie. Exemple, 2001, je suis allée sur la page, vous l'avez vu, j'ai fait une capture d'écran, et je suis allée voir la page parce que je devais faire le laïus, c'est mon boulot en tant que directrice artistique, j'écris tous les laïus de toutes les conférences, d'accord ? Y compris celle sur la physique nucléaire, sur ce que vous voulez. Pendant 5 minutes, je comprends le sujet. Après, j'oublie. Donc, je devais faire un petit laïus sur 2001. J'y vais et là, je tombe sur un truc sur la bande de son de 2001. Et je me dis, mais non, c'est pas ce morceau de Ligeti qui est au début. C'est pas... alors, je sais plus ce qu'ils avaient mis. Parce que normalement, je connais par cœur le film, c'est Atmosphère de Ligeti, le départ de... Et non, ce n'était pas Atmosphère de Ligeti. Donc, je le corrige, nerveusement, le machin. Et un peu plus tard, je cherche d'autres documents sur 2001, et je tombe sur un article de blog que je lis, et paf, je retrouve la même erreur. Voilà. Et ça, c'est typique. C'est le problème de Wikipédia. Et d'ailleurs, du coup, comment est-ce qu'on peut bien utiliser Wikipédia ?
En croisant les sources, tout simplement. Alors, c'est aussi comme ça que mes amis profs repèrent les copier-coller dans les devoirs d'étudiants. Imagine que c'est ton cas.
Oui, c'est-à-dire que à la fin de chaque article, c'est censé être sourcé. Je dis censé parce que c'est à géométrie variable aussi, hein, les sources. Il y a, par exemple, rarement les auteurs pensent aller jeter un œil dans Gallica où les sources sont carrément scannées pour sortir le lien de la source d'origine. Donc généralement, moi, si je tombe sur un article qui me semble un peu léger en source, je fais un peu comme si c'était quelqu'un qui me raconte ce qu'il sait sur un sujet. Je veux dire, ok, il m'a donné un petit vernis, mais maintenant je vais creuser, si j'ai besoin de creuser. Donc je vais aller chercher les sources, si elles n'y sont pas, j'ai mes propres bases de données en tête, enfin mes propres façons de parler, Gallica, vous pouvez tous y aller, hein, c'est gratuit. Mais il y a par exemple, je cherche un détail sur une journée précise, il n'y aura jamais marqué sur Wikipédia quel temps il faisait à Paris. Bon, bah, je vais sur les bases de données de la météo suisse, et depuis 1880, je ne sais pas combien, j'ai la météo à Paris chaque jour. Donc, je fais un bouquin. Moi, quand je dis qu'il pleut, il pleut. Vous voyez ?
Non, mais tu es un grand malade.
Oui.
Il y a effectivement des questions récurrentes au sujet de la fiabilité de Wikipédia. On cite souvent deux ou trois études qui sont sorties depuis quelques années. À un moment donné, on disait que la fiabilité des pages de Wikipédia sur les sciences naturelles, sur les sujets, disons, techniques, d'ingénierie, était relativement élevée. Pour d'autres domaines, les sciences humaines, sociales, c'était beaucoup plus variable. Il y avait une autre étude est sortie un peu plus récemment qui comparait les articles de, je pense que c'était l'Encyclopédia Britannica et de Wikipédia, et qui concluait que ça, c'était relativement équivalent. Bon, ça, je leur laisse la responsabilité. À mes étudiants, je dis que Wikipédia, ça devrait être un début, mais jamais une fin. Donc, autrement dit, on peut commencer par une page de Wikipédia, utiliser les sources et continuer la recherche. Ne pas se servir de Wikipédia autrement comme source d'information, sauf justement pour acquérir un petit vernis temporaire.
Alors justement, les fameux critères d'éligibilité, on les a énoncés, je ne me souviens plus.
Alors, les critères d'éligibilité généraux sont, particulièrement pour les auteurs d'ailleurs, d'avoir publié au moins 2 bouquins à compte d'éditeurs ayant fait l'objet de critiques d'une longueur significative dans la presse à minima nationale. Ça me pose souvent la question.
Ce qui est absolument merveilleux dans la science-fiction, dont nous savons tous qu'elle est massivement relayée dans la presse nationale.
Rions.
Alors, très récemment... J'ai débranché le micro, non, c'est bon. Très récemment, les sources comme Nosphère, etc., ont été admises comme sources recevables pour les auteurs de SF.
Oula. Je me souviens de batailles féroces là-dessus, pour leur faire comprendre que Nosphère, quand même, c'était du sérieux. Mais quelle est la différence entre une source primaire et une source secondaire ? Allez.
Ah, une source primaire émane de la personne concernée par la page directement. Donc, par exemple, si un auteur écrit sur son site internet qu'il a fait ci ou ça, c'est une source primaire. Par contre, si un journaliste écrit la même chose, ça devient une source secondaire, même si ce qu'il raconte est exactement, voilà, est similaire à la virgule près. Et ouais. On se base sur les sources secondaires, on est obligé.
Et du coup, il y a des problèmes. Si vous exhumez d'une armoire un très vieux livre, vraiment, et que personne n'a rien écrit récemment dessus, vous risquez de tomber sur votre page, risque de partir à la poubelle parce qu'il n'y a pas assez de sources. Alors qu'il est tout à fait avéré, vous l'avez dans les mains, mais c'est quelque chose historique qui a été assez peu abordé. Dur de trouver des sources, bon ben, votre page ne sera pas prise, même si elle est vraiment solide. Il y a eu le cas pour un livre médical qu'un collègue a trouvé dans son armoire et qui date du 19e siècle. La référence a été enlevée.
Alors, excusez-moi, j'ai un auteur coincé à l'aéroport. Donc bon, j'enchaîne. Je suis en train de le rassurer en même temps, donc c'est compliqué. La suite de notre conversation, ça serait plutôt, ou plutôt la fin, c'est du coup, on décrit aussi Wikipédia comme une vaste entreprise démocratique participative. Et compte tenu de son fonctionnement, c'est l'idée. Qu'est-ce que nous dit Wikipédia de la démocratie et surtout de la démocratie participative ?
Je vais être méchante, je suis vraiment désolée.
Tu es là pour ça. Go on.
Théoriquement, tous les contributeurs sont bénévoles. Je dis bien théoriquement. Dans les faits, vous avez énormément de comptes appartenant à des agences de e-réputation. Les personnes qui sont derrière ces comptes disposent de ressources financières et techniques quasiment illimitées pour plomber un concurrent, blanchir l'image de marque de la grande entreprise qui les paye, etc., etc. Et à ce niveau-là, Wikipédia, hélas, reflète finalement un certain nombre de travers plus généraux. Donc on est en train de perdre très clairement la bataille contre ces agences de e-réputation qui reviennent sans cesse. J'y passe un temps faramineux donc à tenter de neutraliser des articles de grandes entreprises. J'ai abandonné parce que c'est vraiment sans fin. Et un bénévole ne peut pas lutter contre ça avec les moyens qu'il a, sachant qu'un certain nombre de mes amis contributeurs, par exemple, sont sans domicile fixe, et ce sont de grands contributeurs, ou alors contribuent depuis des prisons, voire depuis des organismes de réinsertion. Alors, je ne peux pas donner leur nom, mais c'est un phénomène qui existe. Et c'est extraordinaire que des gens comme ça soient actuellement à tenter de neutraliser des articles contre des agences de e-réputation. Ce n'était qu'un exemple.
Ça, c'est un super exemple. J'aime beaucoup. Et alors, on va terminer avant de peut-être laisser un peu la parole au public, éventuellement, s'il est d'accord, sur comment est-ce que vous envisagez l'avenir de Wikipédia là, à ce stade, en parlant de ces entreprises justement d'e-réputation et... Tu n'as pas entendu ce que j'ai
dit ? Non, pas tout à fait.
Comment est-ce que tu vois l'avenir de Wikipédia, auteur de SF que tu es ? Allez, rêve.
L'avenir de Wikipédia. On est à peine justement en train peut-être de commencer à voir les contributions des robots. Ça, je ne sais pas si on l'a décelé. Ça, je suis sûr qu'il y en a déjà eu. Et évidemment, qu'est-ce qui se passera lorsque des intelligences artificielles prendront le relais de Wikipédia, décideront que ces humains sont en fin de compte trop peu fiables et seront plus rapides peut-être, et justement, tant qu'elles seront fournies en courant, elles seront complètement bénévoles. Donc, Wikipédia, va falloir simplement mettre des majuscules aux deux dernières lettres. Ce sera le Wikipédia des intelligences artificielles. Et ce sera peut-être bien mieux jusqu'au moment où elles décideront de s'intéresser à des sujets qui n'intéresseront plus les humains. Voilà.
C'est déjà le cas, en fait. La Wikipédia en vietnamien est presque entièrement écrite par des robots de traduction depuis l'anglais et d'autres langues.
Oui, mais enfin, ça, c'est le contenu. Olivier ?
Alors, Olivier, non ?
J'ai failli passer mon tour. Non, en fait, pour moi, je suis un peu terre à terre. C'est que l'avenir à court terme pour moi de ces médias wiki que je suis en train d'essayer d'installer dans une boîte de 14 000 personnes pour en faire un wiki d'entreprise où on pourra parler d'un savoir-faire qu'on n'a pas le droit de divulguer à l'extérieur parce que c'est interdit par la loi. Et le modèle démocratique de Wikipédia, hors ces gros problèmes, nous on les aurait pas en interne, et notre but en fait c'est d'utiliser cet outil pour apprendre aux gens à bosser ensemble sans avoir papa et maman au-dessus en train de les gronder et donner de la transversalité à l'entreprise. On s'en sert aussi pour dynamiser la boîte.
Des questions du public ? Il y a, j'en vois.
Bonjour, je vous remercie. Petite parenthèse, du coup, le Belge qui a créé le monde Anéum, c'est Paul Otley, il me semble. Paul Otley ?
Paul
Otley.
Ah oui, Otley, oui.
Il me semble que Wikipédia devient quand même de plus en plus fiable et les écoles sont toujours, enfin, les profs de la vieille école disent toujours qu'il ne faut pas l'utiliser au lieu d'apprendre à l'utiliser correctement. Et ça me semble assez urgent que l'école s'en empare pour justement que les élèves l'utilisent correctement, au lieu de l'utiliser de toute façon sans savoir ce qu'ils font. Et aussi arriver à expliquer la différence entre connaissance et savoir. Parce qu'il me semble que Wikipédia, c'est plus des connaissances. Et c'est en connectant les connaissances, en les utilisant, qu'on crée du savoir. Et ce qui est intéressant, c'est de créer du savoir, de faire sens par rapport aux connaissances qu'on a. Je ne sais pas, c'est un peu flou dans ma mémoire, donc peut-être que quelqu'un pourra me corriger, mais du coup, il y a tous ces enjeux-là qui arrivent.
Quelqu'un veut réagir ?
Au niveau universitaire, disons qu'en général, le niveau de Wikipédia, ce n'est pas nécessairement pertinent pour le genre de travaux que j'exigerais de mes étudiants, sauf comme point de départ de la recherche. Le défi, c'est plutôt de montrer aux étudiants comment exploiter les ressources des revues savantes qui sont maintenant en ligne, mais effectivement aussi de croiser les informations, de croiser les données, de comparer différentes sources. De ce point de vue-là, Wikipédia peut être un exemple et je continue à réfléchir à donner à mes étudiants la tâche de créer une page sur quelqu'un de méconnu pour effectivement appliquer ce genre de choses. Au niveau inférieur, je ne suis pas prof de collège ou au niveau scolaire, donc je ne peux pas me prononcer, mais oui, je pense que ça, justement, à ces niveaux inférieurs où on a parfois plus le temps de se pencher sur la façon d'apprendre, la façon d'étudier, ce serait une bonne chose d'intégrer la compréhension de Wikipédia au cours.
De toute façon, j'en parlais avec Sylvie Lenné, qui est non seulement une très grande autrice de science-fiction, dont je vous conseille la lecture activement, mais qui est également professeur comme je le suis, et nous constations toutes les deux qu'en fait, outre le fait d'apprendre aux élèves à cesser de nous faire des copier-coller, ce qui arrive assez vite dès que vous collez un zéro, normalement c'est compris, c'est surtout de déconstruire l'image négative de Wikipédia en la ramenant aux proportions qu'elle devrait avoir, c'est-à-dire tout ce que nous venons de dire. Wikipédia, c'est pas caca, c'est un outil humain, il en a les faiblesses et il en a les qualités.
En 2010 ou en 2012, je risque de dire une bêtise, on avait eu une comparaison de la fiabilité de Wikipédia avec de grandes encyclopédies établies, donc, me semble-t-il, l'Encyclopédie Britannica. Et il avait été conclu à l'époque que cette fiabilité était équivalente. Donc ce n'est pas une information qui est très très connue, mais voilà, on devrait la retrouver assez facilement sur le site de la Foundation.
Oui, puis avec de la pratique et donc de l'apprentissage de l'utilisation de l'outil, on finit par reconnaître du premier coup d'œil un article louche d'un article bien écrit ou sur lequel on peut s'appuyer. Mais ça demande effectivement un apprentissage. Et si on ne le fait pas, on a soit les gens qui vont refuser d'utiliser l'outil parce qu'on leur a dit que c'était caca, et puis ceux qui vont l'utiliser en prenant tout comme pain béni. Donc c'est vrai qu'un petit cours de Wikipédia à l'école, ça ne serait pas idiot.
Eh bien, ça sera le mot de la fin. Je remercie nos intervenants et le public. Bonne journée.